Nous lisons en Genèse 12, les versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Haï était à l'est. Là, il construit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel, puis Abraham continua par étapes en direction du Négev. Et nous avons une seconde lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19, les versets 16 à 26.
Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma tendre jeunesse. Que manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. »
Je me réjouis d'être avec vous ce matin. Et pour reprendre après ces quelques petites semaines de break dans les prédications que j'ai eues, j'ai décidé d'entamer une série sur la bénédiction. Parce que j'ai remarqué, dans ma pratique, il pouvait m'arriver, lorsque j'étais dans une situation, on pourrait dire compliquée, avec une personne, que dans la prière, ne sachant trop que demander, il y avait toujours la phrase « Seigneur, je te prie que tu la bénisses ». Et je me dis « Bon, au moins ça je peux faire ». Qu'est-ce donc que la bénédiction? Et non seulement ça, mais ce terme est un peu confus. D'ailleurs, on le voit, alors un peu moins dans notre langage, parce que nous sommes un peu plus sérieux, mais en anglais, quand vous éternuez, on dit « bless you », « sois béni ». Et ils se disent un peu « bless you » à tire-larigot. Ma femme qui écrit des mails avec des anglophones dans son travail, elle me dit « alors la personne va jamais dans une église, mais elle finit toujours son mail par « God bless you ». Voilà, c'est... Qu'est-ce donc que la bénédiction? Et j'aimerais commencer par vous annoncer que je suis habité par le vif désir que vous soyez tous bénis. Et je le dis en toute sincérité, et je vais même me permettre que vous soyez puissamment bénis, ou comme certains l'appellent aussi, richement bénis. Et ceci, non pas seulement pour que, en étant béni, votre offrande augmente, mais réellement pour vous. Malheureusement, la bénédiction n'est ni un dû, ni un droit. Il n'existe pas de droit à être béni, et je ne crois pas qu'il existe pour le croyant une obligation de la part de Dieu de le bénir. Le croyant n'est pas assuré, comme Abraham, d'hériter d'un pays, que ses enfants soient aussi nombreux que les grains de sable d'une plage, ou qu'il possède un grand cheptel de moutons et de chèvres. Et en préparant ce sujet, en travaillant la bénédiction, j'ai bien entendu effectué une recherche sur YouTube avec les mots-clés « bénédiction »,« message », »,« prédication ». Je me suis même aventuré « blessing sermon ». Et là, je suis tombé sur toute une série de vidéos aux titres les plus alléchants les uns que les autres. « Comment recevoir la bénédiction ?»« Ce qui bloque la bénédiction ?»« Combattre pour la bénédiction ?» Recevoir la bénédiction d'Abraham, le défi de la bénédiction, choisir la bénédiction, et même the power of blessing. Alors ça m'a embêté parce qu'après cette recherche, vous savez, il y a un algorithme automatique, mon fil YouTube a commencé à me proposer assez régulièrement des vidéos de prédicateurs qui prêchent la prospérité. Mon fil a été pollué pendant 3-4 jours après cela, jusqu'à ce que YouTube réalise que c'était pas parce que j'étais intéressé par ce sujet que j'avais regardé ces vidéos. Non. Si pour l'Ancien Testament, la bénédiction est une thématique essentielle, qui revient beaucoup, on voit que dans le Nouveau Testament, elle occupe une place un peu plus discrète. Et je pense que cette discrétion vient du fait que Jésus renverse la notion de bénédiction. Jésus rend la bénédiction obsolète. Parce que le propre de la bénédiction, et notamment dans ce qu'on a lu avec la bénédiction d'Abraham, le propre de cette bénédiction, c'est de rendre possible l'accomplissement de la promesse. Dieu bénit pour accomplir la promesse de Jésus-Christ. Et donc, Jésus, en réalisant cette promesse, il rend cette bénédiction obsolète. Et donc, comme on a vu, il y a une évolution dans le sens de la bénédiction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, pour parler de la bénédiction, il emploie la racine « barak ». Ça donne le verbe « barak », « bénir », qui apparaît 320 fois dans l'Ancien Testament, alors que le substantif « baraka », « bénédiction », est employé 71 fois. Il s'agit donc d'une notion courante et qui parcourt l'ensemble de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, c'est intéressant de souligner, il s'agit de la première action de Dieu envers l'être humain après sa création. La première chose que Dieu fait, et le texte nous dit, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Non seulement la bénédiction est la première action divine après la création, mais bénir est aussi la dernière action de notre Seigneur Jésus. En Luc 24, juste avant et pendant son ascension, le texte nous dit « Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. » Et donc, dans le Nouveau Testament, le terme « euloga » est employé pour parler de bénédiction. Et c'est par exemple le mot qui introduit les béatitudes. Vous savez, au début du sermon sur la montagne, « Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront, car le royaume des cieux est à eux. » Ici, le terme pour « heureux » peut également se traduire « béni soit ».« Béni soit les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et dans une introduction à l'Ancien Testament, un expert décrit et définit la bénédiction comme, j'ai répété deux fois, une action silencieuse, constante, se déversant imperceptiblement, impossible à situer dans le temps. La bénédiction se réalise dans un processus graduel, comme la croissance, la maturation ou le dépérissement. Une action silencieuse, constante, imperceptible et impossible à situer dans le temps. Et tout son point, c'est de montrer que la bénédiction, c'est pas un événement. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que pour la bénédiction d'Abraham, il a quand même fallu 3 générations de patriarches, donc Abraham, Isaac et Jacob, pour commencer à avoir un certain nombre d'enfants. Donc Abraham reçoit la bénédiction, je ferai de toi une grande nation, et il fait 2 fils. Alors, vous conviendrez quand même avec moi que pour le coup, c'est quand même mal parti, quoi. C'est pas comme Gengis Khan. Non, j'ai appris, vous saviez que Gengis Khan, il y a une personne sur 8 dans le nord-est de l'Asie qui est descendant de Gengis Khan, tellement il a eu d'enfants. Alors, pour le coup, ça n'a pas été de la même façon avec Abraham. Il a eu 2 fils, on passe à Isaac, il a aussi 2 fils. On se dit, ouais, bon, là, ça commence à tarder quand même. Et enfin, avec Jacob, Israël, on arrive à un peu plus d'enfants. Le propre de la bénédiction, c'est qu'elle voit le temps long. Et la bénédiction se déploie parfois sur plusieurs générations. Et donc, le propre de cette bénédiction, qui est transmise de génération en génération, c'est d'accomplir la promesse. Et cette promesse, c'est que toutes les familles, tous les clans de la terre seront ou se béniront en Abraham. Et le Nouveau Testament est assez clair et il nous révèle que c'est Jésus qui est cette bénédiction. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de riches parmi nous ce matin parce que... Non, justement pas. Lorsque l'évangile selon Matthieu nous raconte cette rencontre entre Jésus et le jeune homme riche, il est justement en train de parler au sujet de la bénédiction. Et il emploie cette figure, ce personnage qui porte même pas de prénom, ce jeune homme, justement pour parler de la personne bénie. Parce qu'à cette époque, Karl Marx n'avait pas encore fait de la personne riche la figure du mal suprême qui opprime les pauvres gens. À l'époque de Jésus, la personne riche, c'est la personne qui est bénie. Et là, on peut le voir, il est d'autant plus béni qu'il est jeune et il est riche. Donc il n'a même pas eu besoin d'attendre d'être vieux pour être riche. Et donc, de nos jours, quand on lit cette histoire, on a presque cette idée, là, en lisant ce texte du jeune homme riche, ah ben, heureusement, quoi, il manquerait plus que soi, que le riche soit sauvé, quoi. Non, pour les disciples de Jésus, ce jeune homme représente l'archétype même de la personne qui est bénie. Et du coup, lorsque Jésus emploie cette figure, lorsqu'il parle de ce jeune homme, Jésus enseigne à ses disciples que même la personne bénie, ne peut pas se sauver. Il est impossible à la personne bénie de se sauver. Et il conclut avec cette magnifique phrase, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et c'est d'ailleurs bien ce que comprennent les disciples. Juste après qu'ils leur disent là l'histoire de chameau, que le chameau ne peut pas rentrer dans un trou d'aiguille, ses disciples lui répondent, « Qui donc ? Mais qui peut donc être sauvé ? Mais qui ?» Et donc on voit bien que Jésus est en train de prendre la personne par excellence où tout réussit et lui dit même à cette personne-là, elle ne peut pas se sauver. La bénédiction ou la non-bénédiction n'est pas un critère de notre salut. Je ne suis pas sauvé en fonction de ma wealthness. Enfin, voilà. Et c'est bien la raison pour laquelle je n'ai pas eu honte de vous annoncer au début que la bénédiction n'est ni un droit ni un dû. Parce que la bénédiction n'est pas le marqueur qui me permet d'évaluer l'amour de Dieu pour moi. Je n'ai pas besoin de réussir, d'être béni pour être aimé par Dieu. Si je ne possède pas de Rolex à 50 ans, ça ne veut pas dire que Dieu ne m'aime pas. Et on réalise que le Nouveau Testament renverse ça. Et il montre bien que le seul critère valable pour me rendre compte de l'amour de Dieu, c'est ma compréhension du sacrifice de Jésus. Et donc on voit bien que Jésus chamboule tout. Jésus chamboule tout parce que Jésus est la bénédiction. Pour conclure, je conçois entièrement qu'en apparence, le sujet de mon message est moins séduisant que celui de ceux qui promettent de puissantes et riches bénédictions. Mais j'ai toujours été frappé de voir ces vidéos avec des très chers collègues qui annoncent « Dieu va te bénir !» Ah bon ? Bon, moi, je sais pas, je le souhaite, je vous le souhaite, mais... je peux rien vous promettre. Et pourtant, j'ai la conviction que c'est en apparence seulement. C'est en apparence seulement. Tout d'abord, parce qu'être honnête avec la bénédiction, c'est ne pas créer de faux espoirs. Lorsque je dis que la bénédiction est pour tout le monde, forcément un jour la réalité va rattraper. Et c'est bien le grand dame du livre des psaumes. Le psaume nous le dit. Et à plusieurs reprises, les psalmistes s'écrient à Dieu et disent « Mais comment ça se fait ? Le méchant prospère. Moi, je suis fidèle. Moi, j'aime. Moi, je donne. Je suis rempli d'amour. Et comment ça se fait que c'est le méchant qui prospère ?» Et non seulement c'est une illusion, cette promesse de bénédiction, mais je crois que lorsqu'on prend conscience que notre salut ne dépend d'aucune circonstance, pas même du fait d'être béni, d'aucune circonstance bonne ou mauvaise, alors un poids est libéré de nos épaules. Non, j'ai pas besoin de sourire et d'être riche, d'avoir la bonne santé, d'avoir un prestige pour être aimé par Dieu. Non, c'est par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le message d'amour que Dieu nous adresse à nous. Ce qui m'est impossible, ce que je ne peux pas accomplir par mes propres forces, Dieu l'a fait. Alors c'est possible que Dieu vous bénisse, c'est possible que vous soyez peut-être un peu moins béni. Mais ce que je veux vous recommander pour conclure, c'est que nous nous tournions vers Jésus. Et non pas que nous nous attachions à Dieu ou que nous l'aimions pour ses bénédictions, ou pour de soi-disant promesses de prestige, de gloire, mais qu'au contraire, on puisse regarder à Jésus-Christ qui, lui, a tout donné, et qu'on trouve dans notre Seigneur cette satisfaction, cette façon de se satisfaire de Dieu. Amen.